Et c'est l'heure du journal avec Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas de bénévolat contre un RSA. La justice administrative annule une disposition du Haut-Rhin qui voulait obliger les plus modestes à travailler bénévolement contre le versement de leurs allocations. Le département est bien décidé, cela dit, à y arriver quand même, nous dira Olivier Vogel. La Cour des comptes épingle les contrats aidés à destination des jeunes. Trop de dispositifs s'empilent et ne sont pas assez efficaces. Explication d'Anne Lorchouin. Jean-Marie Le Pen demande à la justice d'annuler son exclusion du Front National. Nous serons au tribunal avec Christine Moncla et puis à l'étranger. Nous irons en Israël où les attaques au couteau, cette guerre larvée entre Palestiniens et Israéliens, dure depuis un an. Ce serait une enquête signée Étienne Monin. C'était donc une décision illégale. Le tribunal administratif de Strasbourg annule une délibération votée en février dernier par le conseil départemental du Haut-Rhin. Cette collectivité locale voulait obliger les bénéficiaires du RSA à travailler bénévolement 7 heures par semaine s'ils voulaient toucher leur allocation. La justice a estimé que cette mesure ne pouvait pas s'appliquer puisque c'est le code de l'action sociale et non le patron du département qui fixe précisément les conditions dans lesquelles un individu peut toucher le RSA. Cela étant posé, le président du conseil départemental, membre du parti Les Républicains, va revoir sa copie car il compte bien faire appliquer tout de même son idée à Strasbourg, Olivier Vogel.
Imposer 7 heures de bénévolat, c'est illégal pour le tribunal, mais on peut le proposer dans le cadre d'un contrat d'engagement réciproque. Eric Stroman, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, va donc s'engouffrer dans la brèche et enclencher sa mesure comme prévu dès le 1er janvier prochain, après avoir retouché sa délibération.
On va s'adapter et peut-être négocier dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat d'engagement réciproque entre le département et les bénéficiaires du RSA. On va négocier cet engagement de réaliser 7 heures d'activité bénévole au service d'une association et d'une collectivité.
Et en cas de refus,
à ce moment-là, on verra individuellement si on va lui verser ou pas.
Ces contrats d'engagement réciproque, ABCDE, l'association barinoise des chômeurs et demandeurs d'emploi, les connaît bien et elle les combat. Marc Desplats, l'administrateur d'ABCDE.
Nous sommes d'accord pour le bénévolat. Le bénévolat est un facteur d'intégration, c'est certain, mais en aucun cas, il ne peut y avoir de pression sur les personnes et le contrat d'engagement, c'est une pression énorme. On est obligé de signer le contrat. J'ai vu des contrats où le président a dit « ce contrat est insuffisant, donc je refuse de le signer ». Donc on fait pression sur les gens pour qu'il y ait plus de choses dans le contrat. Et donc pour nous, c'est pas correct.
Dans le Haut-Rhin, la délibération retouchée sera proposée au vote des conseillers départementaux en décembre. Le président, les Républicains, Eric Stroman, espère bien faire jaillir le débat dans la campagne présidentielle.
Voilà. Donc Olivier Vogel, à Strasbourg, il n'y a pas que les détenteurs du RSA qui s'indignent du recours au travail dissimulé. Depuis plus d'un an, les artistes interprètes tentent vainement de faire entendre leur voix sur le sujet. Ils s'opposent à une loi votée à l'unanimité par les députés et les sénateurs, baptisée « Liberté de création, architecture et patrimoine », loi qui instaure le recours à des artistes bénévoles sur des scènes professionnelles. Le ministère de la Culture avait promis de limiter ce recours aux bénévoles via un décret d'application. Seulement la semaine dernière, il n'a pas tenu parole. Cécile de Kervas-Doué.
Dans le projet de décret du ministère, il est écrit que le nombre de représentations utilisant des artistes bénévoles ne peut excéder 5 pour un même spectacle, mais uniquement lorsque plus de la moitié des artistes présents sur le plateau sont les mêmes personnes. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, les artistes bénévoles tourneront sur plusieurs spectacles. C'est une atteinte directe au métier d'artiste-interprète, fustigent les syndicats de la filière, qui voient d'avance les conséquences pour les artistes intermittents du spectacle. Car les chanteurs, musiciens ou danseurs, disent-ils, sont comme des sportifs. Ils ont besoin de se produire s'ils veulent conserver leur excellence. Nul doute alors, pense le SFA, syndicat des artistes-interprètes, que beaucoup d'intermittents seront forcés d'accepter de travailler gratuitement, avec à terme un risque évident pour leur intermittence. Pourtant, le SFA comme le SNAM ont mis en garde le ministère, qui en juillet dernier avait même nommé un médiateur afin de convenir d'un projet de décret d'application qui poserait les limites à ce recours au travail artistique non rémunéré. La ministre de la Culture a finalement décidé de passer outre la semaine dernière. Le recours au travail sans entrave d'artistes bénévoles sera donc effectif fin novembre. Mais les syndicats prévoient déjà de saisir le Conseil d'État, la Cour de cassation, voire les instances européennes.
Cécile de Kervas-Doué. La Cour des comptes épingle les contrats aidés à destination des jeunes. Une priorité affichée par François Hollande en 2012 qui a créé les contrats d'avenir. Globalement, l'État consacre 2 milliards d'euros à ces dispositifs aidés. Et les résultats ne sont pas à la hauteur. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir.
Les experts de la rue Cambon pointent qu'il y a une vingtaine de systèmes qui s'entremêlent pour aider les jeunes à trouver du travail et ce n'est pas efficace.
Oui, d'ailleurs, plusieurs études l'avaient démontré avant ce rapport de la Cour des comptes. Si en effet, dans le secteur marchand, la plupart des personnes en contrat aidés restent dans l'emploi, c'est nettement moins vrai pour les personnes insérées dans le secteur non marchand. Or, c'est ce dernier qui bénéficie en majorité de ces contrats aidés. Les mêmes études pointent, comme la Cour des comptes, les effets d'aubaine, c'est-à-dire ces entreprises qui profitent des aides publiques versées pour embaucher, alors même qu'elles auraient embauché sans ce dispositif. Effet d'aubaine aussi pour les gouvernements qui s'en servent pour faire baisser le chômage à court terme. Au-delà de ça, la Cour des comptes pointe un système complexe qui entremêle une vingtaine de dispositifs, emploi d'avenir, contrat unique d'insertion, contrat CIE starter, contrat d'apprentissage, etc. Elle pointe aussi à un dispositif peu efficient en regard de son coût, un peu plus de 10 milliards d'euros en 2015. Deux dispositifs trouvent quand même grâce aux yeux des sages. La garantie jeune, elle s'adresse aux 16-25 ans pas ou peu diplômés avec très peu de ressources. Ils bénéficient d'un accompagnement collectif intensif sur plusieurs mois et d'une aide financière de 462 euros mensuels pour faciliter leur démarche d'accès à l'emploi. Et puis les écoles de la deuxième chance, soit deux dispositifs intensifs, courts et qui ciblent les plus éloignés de l'emploi. C'est cela qu'il faudrait généraliser, estime la Cour des comptes. À quoi la ministre du Travail, interrogée sur le sujet, répond que c'est exactement l'intention du gouvernement, puisque la loi Travail prévoit de généraliser la garantie jeune. Myriam El Khomri qui réplique par ailleurs que le gain de confiance en soi permis par ces dispositifs n'est pas mesurable et pourtant bien réel.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. La France face au viol, crime qui n'est pas assez reconnu, qui est souvent même minimisé. Le Haut Conseil à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes vient de remettre un rapport à la ministre Laurence Rossignol. Cette instance indépendante montre que chaque année, 84 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol et que malgré tous les discours de sensibilisation, la société tolère cet état de fait. Le Haut Conseil formule donc plusieurs recommandations. Louis Bel-Enfant.
Il y a en France une culture des violeurs. Les mots sont forts, mais ils sont représentatifs pour le Conseil à l'égalité de la banalisation de ce crime dans la société française. Une femme sur 10 victime de viol ne porte pas plainte et on entend encore trop souvent que les victimes l'auraient bien cherché par leur comportement aguicheur ou par leur tenue un peu trop courte. Bref, que la responsabilité pèse aussi sur les épaules de la personne agressée. C'est pourquoi les auteurs du rapport réclament une grande campagne gouvernementale de prévention du viol. Ce serait une première. Jusqu'ici, seules les associations menaient des campagnes à petite échelle, mais avec des résultats, notamment pour ce qui est de la libération de la parole des victimes. Il faut aussi, selon le Haut Conseil à l'égalité, améliorer l'accompagnement de ces victimes. Sur le modèle de ce qui existe déjà au CHU de Bordeaux, les femmes devraient avoir accès à une cellule d'accueil d'urgence sans même avoir à déposer de plainte. Une démarche qui les rassurerait et les inciterait à saisir davantage la justice. Et puis le Haut Conseil à l'égalité plaide pour une définition juridique du viol encore plus précise. Le but, laisser le moins de zones d'ombre possible dans l'application du droit. Enfin, il réclame que pour les mineurs de moins de 13 ans, le non-consentement de la victime soit présumé systématiquement.
Oui, bel enfant, de l'exemplarité en politique, c'était la promesse de François Hollande. Le gouvernement a publié aujourd'hui un décret pour limiter les avantages accordés aux anciens présidents de la République, avantages en nature qui coûtent tout de même 10 millions d'euros par an aux contribuables. Le nombre de collaborateurs mis à la disposition des anciens chefs de l'État, 7 personnes actuellement, sera par exemple ramené à 3 personnes au bout de 5 ans. Certains frais de réception ne seront plus à la charge de l'État. Les économies générées par ce décret n'ont pas été chiffrées pour l'instant. Quelques mots encore de politique, si on peut dire. Le Front National se déchire en effet devant les tribunaux. Pour la quatrième fois, le père fondateur Jean-Marie Le Pen, 88 ans aujourd'hui, poursuit le FN devant la justice. Il veut obtenir sa réintégration au sein du mouvement d'extrême droite que dirige sa fille. Marine Le Pen l'a fait exclure par le bureau exécutif le 20 août 2015, ce qu'il ne digère toujours pas. Christine Moncla est à l'audience reportage.
J'ai cru entendre l'avocat du MRAP d'ailleurs, mais non, c'était celui du Front National.
Appuyé sur une canne, Jean-Marie Le Pen surjoue légèrement l'affaiblissement à la sortie du tribunal de Nanterre. Il vient de subir la charge de l'avocat du Front National, Georges Sauveur, pour qui Le Pen père est devenu, je cite, « un détail de l'histoire du Front National ». L'avocat défend l'exclusion prononcée le 20 août 2015 par le bureau exécutif du parti. Oui, les propos incriminés sur les chambres à gaz et Pétain sont graves et Jean-Marie Le Pen est pour lui un récidiviste. Oui, le bureau exécutif était est bien légitime car il s'agit du procès d'une association qui exclut l'un de ses membres et pas d'un procès historique. Auparavant, le défenseur de Jean-Marie Le Pen avait joué la corde sensible, citant Oedipe, Hamlet, Frédéric Joachin lance à la barre « Ce sont tous les enfants du fondateur du Front National. Comment ont-ils pu l'exclure ainsi ? Sa propre fille, son gendre, son ancien avocat ou son ex-attaché parlementaire ?» Le FN était auparavant un parti de camaraderie. Il est devenu une coterie de jeunes ambitieux de serpents froids. Il cite Marine Le Pen qui vantait il y a 4 ans encore les mérites historiques et politiques de son père, lequel avait pourtant déjà été à la même époque maintes fois condamné pour ses propos sur la Seconde Guerre mondiale, comme l'a rappelé l'avocat du Front National. Oui, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il en a été exclu. Alors pourquoi avoir attendu autant, souligne la défense de Jean-Marie Le Pen. Eh bien au milieu, il y a toutes les autres sorties de Jean-Marie Le Pen sur le Front National actuel cette fois et qui en font de fait un adversaire politique. Sa fille qu'il dit vouloir répudier, Florian Philippot, et ses hommes, ses mignons, ses gestapettes. Fin de citation. Jean-Marie Le Pen rigole sur son banc. Je n'ai aucune tendance à la culpabilité, nous disait-il hier avant l'audience, après plus de 120 procès en 40 ans. Pour le symbole, Jean-Marie Le Pen restera le même.
Christine Monclat et Thomas Robin pour les moyens techniques. À l'étranger, d'abord cette attaque que la police fédérale qualifie finalement de terroriste probablement. En Belgique, un homme a poignardé 2 policiers à Bruxelles dans la commune de Schaerbeek. Les 2 agents ont été touchés, leur vie n'est pas en danger. Le parquet avait d'abord parlé d'une simple agression, mais des éléments laissent à croire qu'elle a un lien avec l'islamisme radical. Pas plus de précision pour l'instant quant à l'identité du suspect qui a lui été blessé par balle alors qu'il tentait de s'enfuir. En Grande-Bretagne, les conservateurs semblent s'acheminer vers un Brexit dur. Le parti des Tories tenait son congrès et il a remis la question de l'immigration au centre de ses préoccupations. La secrétaire d'État à l'intérieur, Amber Rudd, propose ainsi toute une série de mesures. À Londres, Antoine Gignot.
La première idée du gouvernement, c'est d'obliger les entreprises à recruter localement. Interdiction d'embaucher des étrangers juste après la publication d'une offre d'emploi. La priorité serait donnée aux Britanniques ou aux résidents déjà installés. Ce n'est qu'au bout de 28 jours que le reste des candidatures serait étudié. La secrétaire d'État à l'intérieur veut aussi forcer les patrons à publier le pourcentage d'étrangers qui travaillent pour eux. Nous devons avoir une discussion sur l'immigration et les compétences. Ça ne veut pas dire que je suis raciste, explique Amber Rudd. Même discours sur le contrôle des étudiants dans les universités. Nous devons savoir s'ils viennent réellement pour étudier. Le gouvernement évoque aussi la possibilité d'expulser n'importe quel étranger qui commette un délit mineur et la création d'une agence de l'immigration chargée de contrôler l'attribution des logements sociaux et l'accès au système de santé.
Antoine Gignot à Londres, où Nigel Farage a exclu par ailleurs de revenir lui à la tête du parti UKIP, parti en difficulté après la démission hier de sa nouvelle patronne. Partons maintenant pour Israël, où l'intifada au couteau lancée par les Palestiniens il y a 1 an maintenant perdure encore. Plusieurs attaques ces dernières semaines sur lesquelles les autorités n'ont apparemment pas de prise. Il ne s'agit pas d'une violence massive, mais 231 Palestiniens ont tout de même été abattus en tentant de tuer des Juifs et 34 Israéliens sont morts, frappés par cette nouvelle forme de terrorisme. C'est une enquête d'Étienne Monin.
Au milieu des pierres patinées par les siècles sur le chemin de la mosquée Al-Aqsa, on est là où tout a commencé, où la colère palestinienne s'est cristallisée l'an passé. Moussa Kos dirige le Comité africain. L'organisation se considère comme l'un des gardiens du lieu saint. Il est au contact de la jeunesse palestinienne de la vieille ville à Jérusalem. 1 an après, il estime que le terreau de la violence est toujours là.
Il y aura encore beaucoup d'attaques bientôt, parce que rien n'a changé ces 2 dernières années. Le gouvernement israélien n'a pas donné d'espoir au peuple palestinien, principalement à Jérusalem. Si vous ne leur donnez pas d'espoir, il n'y aura pas d'autre choix que de mourir dignement. Ce qui veut dire faire une attaque pour être considérés comme des martyrs.
Depuis mars dernier, la vague de violence a changé de forme. Les attaques sont devenues beaucoup plus sporadiques mais mieux organisées. Le profil des auteurs reste par contre le même. Il s'agit de jeunes Palestiniens qui agissent de façon isolée, coupés des factions traditionnelles et de l'autorité palestinienne, explique Issa Amro, activiste d'Hébron, poursuivi par les autorités israéliennes.
À nos yeux, l'autorité palestinienne est devenue un sous-traitant de l'occupation. Ils font juste ce que l'occupant leur dit de faire. Donc vous êtes en colère contre l'occupation et en même temps vous êtes déçu, vous perdez confiance vis-à-vis de ceux qui vous représentent. Même dans les factions, les groupes politiques, ils ne font pas de place aux jeunes pour émerger. La moyenne d'âge de nos leaders est de 70 ans. Les jeunes ne se voient pas comme une partie intégrante du futur.
Il y a deux semaines, les heurts ont repris sporadiquement dans les rues d'Hébron. Les services de sécurité israéliens craignent un pic de violence pendant la période des fêtes qui va durer encore 15 jours. Les saisies d'armes artisanales en Cisjordanie se multiplient depuis l'été et la police tente de saturer l'espace à Jérusalem faute de pouvoir prévenir ces attaques, explique le porte-parole Mickey Rosenfeld.
There's no concrete intelligence that we have about these individuals.
On n'a pas de renseignements exploitables sur ces personnes. On parle de gens qui font des attaques soudaines dès qu'ils ont une opportunité. Ou qui planifient l'attaque quelques minutes avant en achetant un couteau sur un marché ou dans un magasin. Qui n'ont pas d'armes quand ils sortent de chez eux.
Les Israéliens vivent avec cette menace qui fait maintenant partie du paysage. Noémie Kamrin est installée dans la partie annexée de Jérusalem, en première ligne depuis l'été 2014.
Ben, ça sera déjà la troisième année. Si ça continue, parce que ça a commencé avec des feux d'artifice, avec des jets de pierre, pendant qu'il y avait Tzouk Eitan à Gaza. On est là, on essaie de faire le maximum possible pour avoir confiance aux gendarmes et pour avoir la sécurité. Et on verra.
Ces attaques témoignent du manque d'espoir d'une jeunesse palestinienne privée d'horizon. Le pouvoir en Cisjordanie est fortement critiqué par la rue et la coalition en place en Israël privilégie la réponse sécuritaire sur la solution politique.
Étienne Monin à Jérusalem. Un mot de nucléaire à présent avec cette décision de la Cour internationale de justice qui se déclare incompétente pour instruire une plainte des îles Marshall. Et pourtant cet archipel, bonsoir Véronique Reverotte.
Bonsoir.
Cet archipel qui s'en prend aujourd'hui à l'Inde, au Pakistan et aux Britanniques a subi des essais nucléaires dévastateurs pendant des décennies.
En tout cas, la plupart des 55 000 habitants des îles Marshall, petit archipel situé au cœur du Pacifique, ne se faisaient pas trop d'illusions sur cette nouvelle offensive juridique contre trois puissances nucléaires, donc l'Inde, le Pakistan, la Grande-Bretagne. Initialement, la démarche même des îles Marshall, sa croisade contre l'arme atomique, était encore plus ambitieuse puisqu'elle visait aussi la Chine, la France, la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis et même Israël, qui n'a jamais confirmé officiellement détenir l'arme atomique. Alors à tous ces pays, les îles Marshall reprochent de ne pas avoir abandonné la course à l'armement nucléaire. Il faut savoir effectivement que les îles Marshall ont une relation douloureuse avec les armes atomiques. Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont testé 67 armes nucléaires sur les atolls du Bikini et d'Enwetak, alors que les îles Marshall étaient sous administration américaine. L'une de ces bombes à hydrogène testées en 1958 était d'ailleurs 1000 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945. Alors de nombreux habitants avaient dû être évacués de leurs terres ancestrales et des milliers de personnes exposées aux retombées radioactives. Plusieurs îles ont été carrément détruites ou rendues inhabitables pour des milliers d'années. Les îles Marshall, impactées plus que tout pays au monde, n'ont de cesse de tenter, d'essayer de donner un nouveau souffle à des pourparlers sur le désarmement nucléaire en panne depuis 20 ans. Sur place, donc, aux îles Marshall, de nombreuses victimes des essais nucléaires estiment que les plaintes contre trois puissances nucléaires détournent en fait l'archipel de son vrai combat, directement contre les États-Unis qui ont mené les essais, les détournent des revendications des victimes. Celles-ci visent simplement de meilleurs dédommagements et le nettoyage aussi des sites pour les rendre de nouveau habitables un jour peut-être.
Merci Véronique. Et puis le Nobel de chimie, bien sûr, attribué à un Britannique, à un Néerlandais et à un Français. Ça faisait 11 ans que ce n'était plus arrivé. Jean-Pierre Sauvage travaille sur l'infiniment petit, sur les nanomachines moléculaires, Marc Van Roet.
Oui, bonjour Tara. Professeur à l'Université de Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage ne s'attendait vraiment pas à devenir aujourd'hui prix Nobel. Le comité a voulu couronner une révolution dans le monde de la chimie, la découverte des machines moléculaires. Les explications de Jean-Pierre Sauvage.
Il y a des molécules que l'on a conçues et fabriquées avec un but bien précis, c'est de les mettre en mouvement, et de les mettre en mouvement de manière contrôlée. Donc on a réussi à faire des molécules qui savent tourner, hein, comme des moteurs rotatifs par exemple, qui ont un comportement de muscle, c'est-à-dire c'est des petits bâtons qui vont se contracter ou s'allonger en fonction d'un signal qu'on va leur envoyer. C'était complètement inconnu.
Et oui, jusque dans les années 1980, où les trois futurs nobélisés commencent à se pencher sur ces molécules capables de mettre en mouvement les autres, c'est Jean-Pierre Sauvage lui-même qui le premier parvient à faire tourner l'une autour de l'autre deux molécules imbriquées, accompagnées ensuite des deux autres nobélisés du jour. D'abord très discret, le domaine a intéressé de plus en plus de laboratoires et il est aujourd'hui devenu un marché très prospère. Pour cause, les applications de ces machines moléculaires sont très diversifiées.
J'ai un certain nombre de collègues qui parlent de robots qu'il faudra mettre en mouvement avec des muscles ou avec des engrenages ou avec des moteurs rotatifs. Et là, des machines moléculaires seraient parfaitement adaptées. Et il y a un autre domaine qui porte sur la nanomédecine avec la possibilité d'avoir des conteneurs qui se promènent dans des fluides biologiques et que l'on pourra ouvrir ou fermer en fonction des conditions. Donc peut-être près d'une cellule ou près d'un organe à soigner.
D'autres applications dans d'autres domaines sont envisagées, comme par exemple la possibilité de stocker de l'information par voie moléculaire.
Merci Marc Van Roet. Enfin, nous avons appris aujourd'hui la mort de l'anthropologue Georges Balandier, grand, immense même connaisseur de l'Afrique. Il a sillonné depuis les années 40. Il était arrivé au Sénégal en 46. Il avait été à l'époque très frappé par le contexte colonial, ignoré souvent par l'ethnologie. Il a également conçu le concept de tiers-monde dans les années 50 avec Alfred Sauvy et créé la chaire de sociologie africaine à la Sorbonne. Georges Balandier avait 95 ans et France Culture lui rendra hommage dans ses programmes.